Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 16 juin et c'est le mug. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme ce matin, il fait beau, il fait chaud, j'espère quand même que vous arrivez à vous préserver en ce mois de juin, car voilà, bah oui, on n'est pas encore en été, mais on le sent qui approche. Donc j'espère que vous êtes au frais chez vous, peut-être que vous avez pris un thé glacé ou un café glacé cette fois-ci pour commencer la journée. Moi je suis toujours avec mon fidèle petit compagnon, le mug, qui se réveille tout doucement le matin. Voilà, j'aime bien le montrer parce qu'il est tout mignon. Voilà, donc moi ça va, j'ai ma petite potion magique du matin. On est en bonne compagnie tous ensemble pour discuter tech. Donc de quoi va-t-on parler ce matin ? On va parler de Facebook qui se muscle un petit peu là pour séduire les gamers. On va voir un petit peu ce qu'ils vont proposer, mais en gros ils vont muscler les groupes Facebook avec des fonctionnalités qui vont permettre une plus grande interaction dans la communauté des gamers. Ensuite on parlera aussi de Twitter aussi qui n'en finit plus de sortir des nouvelles fonctionnalités, et là c'est en effet pour gérer quand on est mentionné notamment sur Twitter et qu'on est pas forcément envie d'être mentionné, et ben on pourra le faire savoir. Donc je vous le décrirai un peu plus en détail, hein, de quoi il en retourne évidemment tout à l'heure, mais plus de contrôle du coup sur les mentions. On reviendra aussi sur Apple Podcast avec justement les abonnements et les chaînes qui sont enfin disponibles. Et oui, il y a eu un petit peu de retard au démarrage, mais c'est bon, on y arrive. En tout cas, Apple y arrive, ça y est, c'est sorti. Et puis on continuera à parler des aventures du côté des NFT, voilà, les non-fungible tokens, vous savez, c'est bien digitaux, on va dire ça comme ça, parce que c'est ce qui permet de certifier comme quoi un bien est votre propriété, et donc là, cette fois-ci, c'est Tim Berners-Lee qui s'y colle, puisqu'il va justement être à l'origine d'une mise aux enchères pour mettre aux enchères le code source du web. Et non, c'est pas une blague. Donc on en parlera en détail justement un peu plus tard. Et puis on continuera de retour cette fois-ci chez les gamers, puisqu'on prendra des nouvelles du jeu Cyberpunk 2077. Vous le savez, on en avait longuement parlé, il y a eu pas mal de déboires au lancement du jeu, justement à la fin d'année, c'était fin... J'ai des petits problèmes temporels. Je sais pas si c'était fin 2019 ou fin 2020. Je crois que c'était en pleine pandémie, donc ça doit être fin 2020. J'ai un doute. Il y a tellement de choses qui se sont passées dernièrement, mais je crois que c'est relativement récent. Vous pourrez me corriger dans la chatroom, mais je dirais c'est sorti fin 2020. Et vous le savez, il y a eu pas mal de déboires. Et ben, a priori, en tout cas, Cyberpunk, voilà, 6 mois après sa sortie, c'est ça, c'était fin 2020, revient sur le PlayStation Store. Voilà, on verra un petit peu dans quel contexte. Et puis aussi, on fera un petit détour du côté de Disney+. Disney+, et Apple notamment, qui s'expriment, ou en tout cas, on se questionne un petit peu sur les business models. Est-ce qu'on va rester sur un modèle uniquement abonnement payant, ou est-ce qu'on va proposer un modèle un peu moins cher, ou voire gratuit, supporté par la publicité ? Quand on voit un petit peu les déboires de la publicité aujourd'hui sur Internet, on peut se poser des questions. Mais voilà, justement, Disney s'exprime un petit peu sur le sujet et on va en parler ensemble. Et puis, je ne pouvais pas faire ce mug sans parler du premier épisode de Loki, quand même. Et oui, c'est pas possible. Donc voilà, vous avez un spoiler avec ma tête. Donc j'ai du mal à cacher ce que j'en ai pensé. Donc voilà, vous voyez un petit peu. Mais évidemment, on va parler un petit peu du premier épisode de Loki. Alors, j'essaierai de pas faire de spoiler, parce que le but, c'est pas de vous gâcher la série, évidemment. Mais on parlera un petit peu de son style, de ses forces, potentiellement de ses faiblesses. Vous me direz, pour ceux qui ont vu le premier épisode, ce que vous en avez pensé. Puisque ce soir, on a le second épisode qui arrive. Voilà. Donc voilà. Là-dessus, je vous propose de commencer tranquillement avec J'allais dire le mug, mais le kawa. Et voilà, donc on commence, je viens de réaliser que je ne vous ai même pas dit bonjour comme il se doit dans la chatroom. Salut Kylian, salut Grolb, salut Camille, salut Mehdi, salut... salut et merci Djoubaï pour ton abonnement, un grand merci à toi. Cool, salut Japa Seb, salut Super Dupont, salut Wiro, salut Addict, salut Jela, Jehab. Salut On Off Web, salut Sorcier, salut à tous, bienvenue, salut Polaire75, salut Rosebud, salut Kevin, salut Technisavoir, salut Distinct, salut Olek, etc. C'est quoi ce t-shirt trop cool? Je me souviens même plus où je l'ai eu, ce t-shirt Star Wars. Où est-ce que je l'ai eu ce t-shirt? Je me souviens plus, mais je l'aime bien aussi, ouais, il est cool. Bref, je vous propose de commencer tout de suite avec justement qu'est-ce qui se passe du côté de Facebook et du côté des gamers. On sent que Facebook, en remet une tartine hein, pour séduire la communauté des gamers. Comment ils vont le faire? Là, a priori, ils vont muscler un petit peu leur page Facebook, tout simplement. C'est un logo Star Wars. C'est pas un logo Uniqlo. Donc non, c'est un logo Star Wars. Voilà. Je suis pas capable de dire d'où il vient, je me souviens plus. Mais donc on va parler un petit peu de ces pages Facebook qui se musclent pour la communauté des gamers. Alors, j'ai évidemment perdu mes notes. C'est justement Mark Zuckerberg hein, qui a annoncé ce lancement de ce qu'il appelle Fan Group. Donc c'est une expérience améliorée pour la communauté des gamers. En gros, le but, et vous en doutez, hein, c'est que justement les pages Facebook deviennent un lieu pour les créateurs et leur communauté de se retrouver, de se rassembler à une destination unique. Évidemment, hein, Facebook aimerait bien garder après le streaming les personnes et la communauté sur Facebook, puisque c'est quand même la base réseau social de Facebook en tant que tel. Et de leur donner des moyens justement de se connecter, d'interagir ensemble en dehors justement de ces live streams. Et donc, qu'est-ce qui sera possible de faire? A priori, les créateurs pourront organiser des sujets dans des discussions, dans des threads, donc dans des fils de discussion, qui pourront être bougés dans des channels, dans des chats, dans des channels. Voilà, tout simplement, dans des chaînes de discussion. Et donc, un peu à la manière de Discord et de Slack, hein, d'ailleurs. Là, vous pouvez le voir un petit peu dans la capture d'écran sur le côté. Vous pouvez voir les rooms pour Battlezone, par exemple, où il y a Just Chillin, Watching Life Together, Ask the Admins, donc vous pouvez rejoindre ce genre de room, donc il y a ça qui fait son arrivée, donc ça c'est assez, c'est pas mal. Il y a également un nouveau type de post qui va faire son arrivée sur justement ce type de page, qui s'appelle Looking for Players. Alors comme son nom l'indique, tout simplement, ça va permettre d'aider la communauté, dans la communauté, hein, les membres de la page, de trouver d'autres personnes avec qui justement jouer dans la même communauté du streamer. Donc ça c'est assez pratique et tout à fait approprié évidemment à la communauté gamer. Enfin moi je trouve ça vraiment super comme fonctionnalité. Je sais pas si ça existe ailleurs, alors vous qui êtes plus gamer que moi peut-être dans la chatroom, vous pouvez me dire s'il y a ce type de fonctionnalité qui existe peut-être chez Discord, ou est-ce que ça se fait de manière plus organique. Jihab, ouais, Facebook versus Discord, oui il est vraiment, vraiment question de ça en effet. Il y a vraiment des gamers sur Facebook. Ah, ça troll dans le chatroom, là. Ça y est, vous êtes chaud. Donc voilà. Il y a des gamers sur Facebook. Donc voilà, vous pourrez avoir ce nouveau type de post. Ok gamer, c'est à peu près ça. Et vous aurez aussi la possibilité de d'afficher les badges que vous aurez gagnés lorsque vous regardez un live stream. Voilà, pour montrer votre engagement, vous pourrez le voir s'afficher également lorsque vous interagissez justement sur ces Facebook fan page ou fan group. Voilà, vous pourrez garder vos badges. Encore une fois, là, c'est une notion de récompense, de montrer et d'afficher un petit peu votre engagement dans la communauté de ce streamer. Donc ça, encore une fois, c'est bien vu de la part de Facebook. Un autre aspect aussi qui va arriver, enfin une autre amélioration, hein, on va dire plutôt, c'est que Facebook maintenant va suggérer aux personnes qui regardent le live stream de justement rejoindre la communauté du créateur, du streamer sur le fan group directement après que le live stream se soit arrêté. Donc là encore une fois, c'est tout à fait pertinent, on est là pour engager, pour garder, pour faire rebondir la personne et qu'elle reste engagée avec la communauté. Voilà, et pareil, lorsqu'une personne va engager avec la page du créateur, elle sera encouragée à connaître qu'il y a un fan group sur ce créateur, sur cette communauté en tout cas aussi. Donc voilà, on sent que Facebook tartine bien un peu, remet une couche sur tout ce qui peut être fonctionnalité d'interaction, d'interactivité, tout ça pour essayer potentiellement de garder captif un petit peu la communauté des gamers, évidemment, sur leur plateforme, pour les désintéresser de YouTube, de Twitch, ou de Discord, ou de Slack, mais bon, c'est principalement Discord, hein, on va pas se leurrer là-dessus, et donc là, d'avoir tout dans un même endroit. Donc ça, c'est un peu le rêve de Facebook, c'est de garder les gens tout le temps sur sa plateforme. Des PGM sur Farmville, les derniers gamers, je crois. C'est pour les papy gamers. Vous êtes terribles dans la chatroom là ce matin. Il y a Lancelot pour trouver des joueurs avec qui jouer. D'accord. Donc ça, c'est encore un autre service, c'est ça? A priori. À quoi sert Facebook? Oh là là, mais vous êtes déchaînés. Quelqu'un a-t-il une bonne image de Facebook? Je pense que là, dans la communauté, vous n'avez peut-être pas une bonne image de Facebook. Après, vous êtes très technophile, donc vous savez ce qui se passe. Vous êtes un peu biaisé quand même. Après, en règle générale, les gamers, je sais pas s'ils s'intéressent tous à la tech en tant que telle, mais c'est une bonne question. Je crois qu'en effet, la perception de Facebook est pas super... super positive auprès de la communauté des gamers. Mais il y a peut-être quelque chose que je rate. Hein. Moi, je ferais cette hypothèse. Je suis un peu comme vous. Hein. Je ferais un peu la même hypothèse que Facebook essayer de séduire la communauté des gamers, c'est peut-être un peu compliqué. Oleg nous dit, il me semble qu'il y a des pays où c'est à fond sur Facebook, en fait. On a notre vision, mais c'est pas celle du monde entier souvent. Oui, tout à fait, Oleg. Hyper intéressant. T'as une idée de quel pays Facebook serait du coup beaucoup plus utilisé sur l'aspect gamer, gaming. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Je suis plus sur Instagram, oui, mais bon, là, pour les gamers, Instagram, c'est pas forcément adapté. Et c'est vrai que Facebook, c'est quand même Oculus, tout à fait, Jiwanazaki, tu fais bien de le rappeler. Tu fais bien de le rappeler, Facebook, c'est quand même Oculus. Donc, ils ont quand même déjà un lien avec la communauté, quoi. C'est clair. Non, non, mais c'est un très, très bon point. Merci beaucoup de le rappeler. Aucune idée, c'est Baban42 qui doit faire les recherches, on a dit. Olek, qui lance des infos. Salut à tous, j'ai pas suivi, mais effectivement, Facebook s'est dépassé pour nous. Discord a déjà tout ce qu'il faut sans les boomers et les bofs. Oh là là, t'es sévère, Ali Moshi Moshi. Mais comme disait a priori Olek et Jiwanazaki, là, j'ai peur d'écorcher ton pseudo, il me semble, de mémoire, c'était ça. Il y a en effet peut-être d'autres pays où Facebook est plus est mieux perçu et plus utilisé avec la, dans la communauté des gamers. Et également, Facebook, en effet, il faut le rappeler, hein, c'est quand même Oculus. Donc, pas rien non plus. Un grand merci, Jiwanazaki, d'ailleurs, pour ton réabonnement. Un grand merci à toi. 11 mois d'abonnement. Ouais, chapeau. Joli. Un grand merci à toi. Donc voilà, en tout cas, on a beau, nous, ne pas forcément apprécier Facebook, ou vous, hein, parce que moi, la rigueur, je m'en fous, mais en tout cas, la réalité est que Facebook n'investirait pas sur la communauté des gamers s'il n'y voyait pas un potentiel. Donc eux, ils sont quand même mieux, enfin, j'espère pour eux, mais mieux informés que nous sur leurs utilisateurs. Donc, a priori, s'ils investissent autant sur la communauté des gamers, c'est qu'il y a un vrai potentiel business sur le sujet. Voilà. Donc, je vous propose d'enchaîner avec cette fois-ci pas Facebook, mais Twitter. On continue un petit peu notre tournée des réseaux sociaux ce matin pour prendre un petit peu des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe du côté de Twitter ? Alors, on n'arrête pas d'en parler un petit peu cette année. Ils sont un peu à tous les mercredis, ou en tout cas toutes les semaines, on a quelque chose à dire sur le réseau social. Ça change tellement des dernières années qu'on avait vues. Merci David Dino pour ton abonnement Prime, un grand merci à toi, 10e mois d'abonnement. Dis donc, ça grimpe hein, en termes de fidélité, hein. Vous êtes super fidèle, ça fait vraiment plaisir, un grand merci à vous. Oleg nous dit Asie apparemment, chiffre Facebook. Merci beaucoup Oleg de partager un petit peu des liens du blog du modérateur là pour partager des chiffres justement sur les utilisations de Facebook. A priori, ça serait plus en Asie, bien noté. Donc en ce qui concerne Twitter cette fois-ci, ils essayent de donner plus d'outils pour pouvoir avoir plus de contrôle sur vos interactions sur Twitter. Alors cette fois-ci, ils s'attaquent notamment aux mentions. Je sais pas ce que vous en pensez vous dans la chatroom, mais il y a rien de plus énervant que de se retrouver mentionné dans un thread où t'avais rien demandé et là t'as plein de trucs qui apparaissent, tu sais pas d'où ça vient, tu connais pas les gens, etc. Alors moi ça va, ça m'arrive pas trop souvent, et comme ça m'arrive pas souvent, les rares fois où ça m'arrive, ça me fait « Ah, bah il y a l'activité sur Twitter ». J'avoue que je suis pas super active depuis quelques, on va dire depuis 2 ans là sur les réseaux sociaux. Je suis pas très très active. Donc du coup moi ça me gêne pas tant que ça. Ou même pas du tout d'ailleurs. Mais en effet, quand on atteint une certaine popularité, ça devient un peu compliqué à gérer, et donc se retrouver mentionné dans des threads où on connaît pas les gens, on sait pas de quoi il s'agit, etc. On n'a rien demandé, ça peut être pénible. Puis il y a même une notion de harcèlement sur les réseaux sociaux aussi, où ce genre d'être mentionné de manière non sollicitée peut être vraiment perçu de manière très très négative. Et donc du coup, justement, Twitter s'est attaqué à ce sujet-là et propose plusieurs manières de pouvoir gérer le sujet. Donc il y a à la fois, quand vous serez mentionné, vous pourrez tout simplement sélectionner les 3 petits points à côté du tweet en question où vous avez été mentionné pour demander à être non mentionné, enfin retirer la mention tout simplement, et la personne qui est à l'origine, l'auteur du tweet, ne sera pas lui averti de votre manipulation. Donc vous pouvez le faire, donc ça c'est déjà une bonne première étape, et vous pourrez également préciser que si la personne ne vous suit pas, vous aurez plus de contrôle, et vous pourrez dire je ne suis pas la personne, donc je ne souhaite pas être mentionné à l'avenir par cette personne. Donc c'est assez logique en effet, si vous ne suivez pas de manière active la personne, vous pouvez avoir un peu plus de contrôle. Donc ça c'est pas mal. Et le dernier aspect aussi, c'est que pour les personnes justement qui ont été mentionnées en masse, donc parce qu'il y a eu un événement où il y a eu une campagne de mention envers une personne spécifique, comme je vous disais, le harcèlement sur les réseaux sociaux, etc., bah vous pourrez demander à mettre en pause les mentions pendant 1, 3 et 7 jours. Voilà, a priori, c'est le niveau de contrôle que vous pourrez avoir. Donc ça, je trouve ça, encore une fois, bien vu, bien joué de la part de Twitter et assez assez intelligent. Donc c'est à l'étape de concept pour l'instant, donc on va pas s'emballer. Un grand merci à Shoyu. Un grand merci à Shoyu63 pour ton abonnement Prime, 10e mois. Un grand merci à Salsa Bunny, j'aime beaucoup ton pseudo, pour ton 5e mois d'abonnement. Et un grand merci aussi à Slim, Sly BM pour ton 9e mois d'abonnement. Vous êtes en feu là ce matin. Ça y va avec les abonnements, ça fait super plaisir. Un grand merci à vous tous. Voilà, donc pour l'instant, ces fonctionnalités de contrôle de mention sont encore à l'étape de développement. D'ailleurs, il y a une des personnes qui travaille sur le sujet. Hein, je crois que c'est le, je suis pas sûre, mais je crois que c'est le designer. Hein. Je regarde. Oui, c'est ça, c'est le privacy designer à Twitter, hein, Dominique Camozzi, qui a tweeté justement sur le sujet pour demander l'avis et des retours sur le sujet à la communauté sur Twitter. Et donc, c'est vraiment à l'étape encore de concept. Et donc, je vais peut-être vous montrer des screenshots, ou en tout cas, ces tweets, hein, tout simplement. Ah mince, je ne les ai pas là. Il me semblait que j'avais cliqué dessus tout à l'heure. Ah, alors attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. Ah oui, non, tout simplement, c'était sur Twitter. Voilà. Voilà, donc il a fait un thread, tout simplement. Il a même épinglé ce thread. Donc, vous pouvez encore le trouver aujourd'hui. Donc, c'est Dominique Camozzi, voilà, qui a tweeté, qui a présenté un petit peu, voilà, la fonctionnalité. Alors, attendez, je vais baisser un tout petit peu la luminosité de mon iPad pour que vous puissiez voir de manière un peu plus confortable. You've been mentioned in this tweet. Et donc, vous voyez que vous êtes un peu informé de la fonctionnalité et comment ça marche. Vous pouvez enlever la mention vous-même et la personne qui est l'auteur du tweet ne sera pas avertie du fait que vous avez demandé à être démentionné. Enfin, c'est un petit peu bizarre à dire, mais enlever la mention. C'est un peu la même fonctionnalité que sur Facebook, lorsque vous des personnes vous taguent dans les photos ou dans les messages. D'ailleurs, vous avez la possibilité de vous enlever ou d'enlever le tag, tout simplement. Donc ça, c'est assez pratique. Et ça paraît un peu évident d'avoir ce degré de contrôle sur sa propre communication, sa propre image aussi. Donc ça, c'est bien vu. Et donc, du coup, vous avez un thread où il vous montre un petit peu, justement, comment ça fonctionne avec des screenshots et des mock-ups un petit peu, voilà, de ce qui se passe. C'est plutôt bien foutu. Voilà. Donc, en tout cas, on sent que Twitter prend vraiment au sérieux ce type de sujet et qu'ils font vraiment un effort là-dessus. Donc, c'est en tout cas, on peut féliciter la démarche. On verra en pratique qu'est-ce qu'il en est. C'est intéressant de demander un petit peu l'avis aux gens, mais c'est encore plus intéressant de voir ensuite l'usage et qu'est-ce qui se passe. Donc, peut-être qu'on en saura plus un petit peu à l'avenir. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous trouvez utile dans la chatroom ? Twitter développe donc fonction antisociale. Ironique pour un réseau social. Pas vraiment le tutoriel. Enfin, encore une fois, c'est pas complètement nouveau. Hein. Facebook l'avait fait avant eux. C'est juste qu'ils musclent un petit peu et qu'ils donnent un peu plus de contrôle. Finalement, vous, en tant qu'acteur du réseau social, vous avez plus de contrôle sur comment vous êtes mentionné, qu'est-ce qui se passe et les interactions. Donc, c'est plutôt positif. Merci beaucoup Hippomony pour ton 11e mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Risque d'être énervant pour les grosses personnalités qui vont recevoir ce message toutes les 30 secondes. OPG back, je pense que les personnalités, de toute façon, ont une autre manière de gérer leurs notifications et je pense que Twitter y a déjà réfléchi. Ils vont potentiellement les grouper, etc. à voir. Mais oui, c'est un usage particulier, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime pas être mentionnée, nous dit TechniSavoir. Et ben voilà, du coup, tu vois, t'as les outils parfaits pour toi. Laurence CDG nous dit IKEA a présenté la nouvelle symphonie. Alors, bah écoute, on va pas en parler aujourd'hui. J'ai pas vu la news. Peut-être que Guillaume en parlera demain. En tout cas, voilà ce qu'il en est pour Twitter ce matin. Comme ça, vous êtes au courant. On fait un petit tour du côté de Apple avec son application Podcast. On en avait déjà parlé, hein, mais ça y est, la fonctionnalité des abonnements et des chaînes de podcast sont enfin disponibles sur l'application Podcast. Donc vous pouvez dès maintenant en profiter. Si vous êtes consommateur de podcast, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à comment, à quoi ça ressemble un petit peu dans l'application Podcast. Donc tout simplement, vous pourrez avoir l'occasion de vous abonner en un clic à des podcasts et les soutenir financièrement de la même manière que lorsque vous achetez des applications dans l'App Store. Ça se passe en un clic, c'est très très facile. Bah là, vous avez le même type d'intégration, donc c'est plutôt positif pour les créateurs de podcasts qui vont enfin pouvoir avoir des outils plus perfectionnés pour monétiser leur contenu, leur création. Et donc Apple a fait des partenariats notamment avec des grands réseaux, des grands networks, hein, de podcasts, notamment Wondery ou Luminary, pour justement avoir leur paywall, leur barrière de paiement, hein, pour accéder au contenu directement accessible sur l'application Podcast. Voilà, donc les fans d'un programme pourront tout simplement, ou d'un réseau de podcasts, pourront tout simplement s'abonner en un clic au podcast qui leur plaise en utilisant leur compte Apple, tout simplement. Tout simplement, ensuite, Apple va redistribuer ensuite automatiquement le contenu premium à ceux qui auront souscrit aux abonnements dès que c'est disponible, etc., au fur et à mesure. Évidemment, les créateurs de podcasts pourront continuer à monétiser leur contenu en dehors de la fonctionnalité de souscription, hein, d'abonnement d'Apple. Donc ça, il n'y a pas de crainte à avoir. Vous ne serez pas captif, en tout cas, du fonctionnement Apple. Donc ça, c'est plutôt positif. Et vous pourrez, enfin, ça vous donne juste plusieurs manières de monétiser. Alors là où ça devient compliqué, c'est en effet, il faut être à la fois sur plusieurs plateformes et monétiser de manière différente. Donc ça, c'est pas forcément évident pour les créateurs, mais c'est mieux que rien ce qui existait en gros avant. On va dire ça comme ça. Puis il y a également les chaînes qui font leur arrivée. Alors les chaînes, à quoi ça sert? Tout simplement, ça permet à n'importe qui de grouper leur programme dans une page dédiée, et ce qui va permettre aussi d'avoir un branding ou un look de page très personnalisé à la chaîne en question. Et tout simplement, lorsque vous allez vous abonner à la chaîne, ça va vous permettre de vous abonner automatiquement à tous les podcasts qui étaient groupés dans la chaîne. Donc ça fait des bundles en fait de podcasts. Donc ça peut être assez intéressant, hein, quand vous voulez vous abonner en un groupe à toute une série de podcasts qui vous intéressent particulièrement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça y est, c'est disponible pour ceux qui étaient intéressés, qui se demandaient quand est-ce que ça allait débarquer, parce qu'il y a eu pas mal de petits retards. À l'origine, ça devait sortir en mai. Bon, il est on est le 16 juin, ils n'ont pas eu énormément de retard, mais ça y est, c'est disponible. Voilà. Et pour rappel, en effet, Apple prend 30% du coût des revenus sur les abonnements, tout à fait. Voilà. On nous dit, oui, on de la raconte et payant depuis hier soir. Après, c'est le choix du créateur, hein, de le mettre derrière un paywall ou pas. Donc, faut pas taper sur Apple parce que les créateurs ont décidé de monétiser leur contenu. Hein. Je vous vois venir d'ici. Hein. Voilà, donc on continue. On continue avec des petites nouvelles du côté des NFT. Vous savez, on en a parlé pas mal en ce début d'année. C'est quoi les NFT? Eh ben, c'est ces non-fungible tokens. Voilà, c'est un asset digital qui permet tout simplement de montrer qu'une personne est le propriétaire de cet asset digital, on va dire ça comme ça, ou numérique, parce que digital en français ça marche pas, mais en gros NFT, ça montre que quelqu'un est propriétaire d'un asset numérique. Donc ça peut être une photo, ça peut être une musique, ça peut être un fichier, enfin n'importe quoi qui est numérique, voilà. Et depuis le début de l'année, on a vu pas mal de créateurs, ou en tout cas de personnalités, d'influenceurs qui ont monétisé des NFT. On a eu notamment Qu'est-ce qu'on a eu comme l'exemple? On a eu évidemment Beeple, voilà, ce graphic designer qui avait monétisé, qui avait mis aux enchères notamment, chez Christie's, un des NFT qu'il avait mis à disposition. On avait eu notamment Jack Dorsey aussi, CEO de Twitter, qui avait vendu son premier tweet sous forme de NFT. Mais c'est pas les seuls, hein. Il y en a eu plein. Et là, aujourd'hui, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en parle? C'est autour de Tim Berners-Lee de mettre aux enchères justement le code original du World Wide Web comme un NFT. Donc ça, c'est évidemment assez historique. Alors, on fait une petite piqûre de rappel. Évidemment, Tim Berners-Lee, figure emblématique d'Internet et du World Wide Web. Tout simplement, il est considéré comme l'inventeur quand même du HTML en 92. Il fut aidé évidemment à ses débuts par l'ingénieur belge Robert Caillot, qui co-signa justement avec lui en novembre 90 un document qui est maintenant aujourd'hui rentré dans l'histoire, hein, intitulé le World Wide Web, proposition pour un projet hypertexte, et qui a posé les fondements du World Wide Web. C'est hyper intéressant que ça soit lui. Et justement, c'est vrai qu'il avait jamais eu de rétribution financière suite à cette invention, etc. En tout cas, évidemment, après, il a eu une grande carrière, hein, mais il continue aujourd'hui d'en avoir une. Mais c'est intéressant de voir comment il peut trouver des moyens de monétiser aujourd'hui avec justement ses NFT. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire une mise aux enchères chez Sotheby's. Je sais pas comment on le prononce. Mais bon, en gros, c'est une maison emblématique, hein, de mise aux enchères, évidemment, à Londres. Du 23 au 30 juin, il y aura donc une enchère sur ce NFT qui va commencer à 1 000 $. Les revenus de cette mise aux enchères bénéficier aux différentes initiatives que Berners-Lee et sa femme soutiennent. On n'a pas plus de détails sur justement où ira l'argent, mais en tout cas, ils doivent être très engagés dans pas mal d'initiatives, notamment autour du web, évidemment. Donc qu'est-ce que vous aurez si vous remportez justement cette mise aux enchères? Donc vous aurez les fichiers originaux avec les timestamps qui contiennent le code source justement qui a été écrit par Tim Berners-Lee. Vous aurez également une animation, une visualisation animée du code. Pas plus d'informations là-dessus. Vous aurez également une lettre écrite par Tim Berners-Lee sur le code en lui-même et sa création. Vous aurez également un poster numérique du code en entier. Tout ça, ça sera vendu de manière digitale et c'est signé, numérique, et ça sera signé numériquement également par Tim Berners-Lee. Donc c'est pas mal, hein, pour les fans. Même moi, là, vous voyez, il y a mon petit cœur geek qui a un peu bondi quand j'ai vu la news ce matin. Je trouvais ça assez chouette. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, voilà, ça sera du 23 au 30 juin prochain, chez Sotheby's at London. À Londres, désolé, je fais des anglicismes, pour ceux qui sont intéressés. Ce qui est intéressant, c'est que aussi on se pose des questions, hein, autour des NFT. Est-ce que c'est pas une bulle? Est-ce que ça va pas exploser? Est-ce que la valeur des NFT va pas retomber, etc.? Évidemment, on se pose ce genre de questions. Il y a eu plusieurs signes, hein, dernièrement, qui montrent que l'engouement autour des NFT est en train de retomber un petit peu, hein, la valeur est un peu en train de retomber. À voir, en tout cas, pour ceux qui sont intéressés, vous êtes au courant. J'observe bien souvent que les tarifs demandés sont déconnectés des réalités. C'est de la spéculation, hein, Hibou, donc il ne faut pas non plus s'étonner. Un poster numérique du code en entier, Google Translate, une capture d'écran. Oui, c'est à peu près ça, ouais. Mais après, une capture d'écran peut être très chouette. Voilà. Voilà, en tout cas, pour l'info, c'est vraiment là pour les petits cœurs geeks que je sais vous êtes là dans la chatroom. On enchaîne pour prendre des nouvelles du jeu Cyberpunk 2077 dont on a pas mal parlé à la fin de l'année et ce début d'année, puisque le jeu est sorti en fin d'année 2020 et a essuyé un peu les plâtres De son lancement, évidemment, le contexte était que la société avait eu pas mal de pression pour sortir. Ils avaient déjà décalé plusieurs fois la sortie du jeu. Hein. C'était un jeu quand même techniquement très ambitieux, à très gros budget. Voilà, et l'équipe avait quand même pas mal travaillé dans l'urgence. Ouh, ça va être pénible ça si ça se réactualise à chaque fois que je perds mes notes. Excusez-moi, j'ai les sites internet qui font leur enfin, qui sont assez pénibles là, voilà. Voilà, il y a eu un contexte de lancement assez chaotique pour le jeu qui avait mis sous pression pas mal les équipes. Le jeu s'était lancé sur plusieurs plateformes en même temps, hein, sur ordinateur, PlayStation Store, Microsoft et compagnie. Et justement, il y a eu pas mal de soucis lors de la sortie sur le PlayStation Store, puisque le jeu était bourré de bugs et proposait une expérience de jeu, en tout cas, pas, enfin, loin d'être optimale. Et donc, du coup, Sony l'avait retiré, justement, du store. À l'époque, voilà, il l'avait retiré moins de 10 jours après sa sortie en décembre. Sony, voilà, avait décidé de retirer Cyberpunk 2077 de son offre sur le PlayStation Store, le temps justement que la société qui est à l'origine de la conception du jeu, hein, CD Projekt Red, apporte justement des correctifs. Ben ça y est, a priori, c'est fait. Les créateurs se sont exprimés. La remise à disposition de la version numérique de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store sera effective le 21 juin prochain, donc lundi prochain, a déclaré donc les créateurs. Et Sony a confirmé de leur côté, puisque ils ont dit les utilisateurs vont continuer à connaître des problèmes par contre de performance. Alors voilà, ils ont confirmé que le jeu allait être disponible, mais ils y vont quand même de manière un peu précautionneuse, hein. Ils sont pas quand même, ils avertissent quand même les joueurs. Donc ils disent en effet, les utilisateurs vont continuer à connaître des problèmes de performance avec ce jeu, hein, sur PS4, alors que CD Projekt Red continue d'améliorer la stabilité à travers toutes les plateformes. Donc en gros, il est conseillé plutôt de jouer à ce jeu sur les consoles PS4 Pro ou PS5, PS5, qui certains on le sait galèrent encore à acheter ou à obtenir. Je compatis, hein, pour ceux qui tentent d'avoir la console, mais voilà ce qu'il en est. En tout cas, vous pourrez très bientôt y rejouer. C'est surtout que PS4, c'était une qualité médiocre. Ouais, a priori, c'est pas encore parfait. Voilà, en tout cas, pour CD Projekt Red. On termine les petites news tech ce matin avec Disney+. Alors c'est vraiment une brève, hein, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais je trouvais que ça quand même assez intéressant. Tout simplement, en tout cas, il y a eu une conférence annuelle au Crédit Suisse, la 23e conférence annuelle de communication au Crédit Suisse, qui s'est déroulée. Et justement, le CEO de Disney, Bob Chapek, s'est exprimé sur le futur de Disney+, et notamment sur un potentiel abonnement moins cher ou supporté par la publicité pour Disney+, pour rendre plus accessible en tout cas le service. Et a priori, c'est pas dans les cartons. Voilà, ça veut pas dire qu'ils le feront jamais, mais pour l'instant, Disney+ a l'air plutôt content ou en tout cas satisfait des résultats des abonnements. En tout cas, ils se sont exprimés en tout cas. On réévalue, je vous le fais un petit peu en français, hein, on réévalue toujours comment on entre sur un marché, ce qu'on appelle le go-to-market, hein, voilà, à travers le monde. Mais pour l'instant, on n'a pas de plan de faire ce type de souscription, d'abonnement supporté par la pub, soit moins cher, soit gratuit, en fonction de la pub. On est plutôt satisfait, content des modèles qu'on a aujourd'hui. Voilà. On ne va pas se limiter évidemment à ne rien faire. Et on va pas dire qu'on ne va rien faire, mais pour l'instant, on n'a pas de plan spécifiquement pour un abonnement supporté par la publicité. Voilà, donc au moins c'est clair, ils n'ont pas ça dans les cartons. Pour rappel, aux États-Unis, Disney+, c'est un prix de $7.99, tandis que HBO Max aujourd'hui coûte $14.99. Et justement, suite à l'arrivée de la compétition, parce qu'il y a eu plein de services de streaming qui se sont lancés à peu près en même temps. Donc la compétition est assez féroce hein, sur le marché aujourd'hui. Mais HBO Max avait proposé justement de baisser son prix à 9,99 $ justement avec de la pub pour les utilisateurs que ça ne dérange pas ou qu'ils voilà, qui ressentent qu'ils sont OK pour payer 9,99 $ avec de la pub pour profiter du service. A priori, en tout cas, Disney, eux, ils sont plutôt bien. Après, Disney, le truc, c'est qu'ils ont des revenus, ils ont beaucoup de revenus par d'autres moyens. Hein. Disney, c'est quand même un empire. Et donc, potentiellement, ils vont habituer les utilisateurs à un certain prix et augmenter progressivement le prix pour qu'à un moment donné, ils retombent sur leurs pattes financièrement. Mais ils se permettent, je pense qu'ils peuvent plus se permettre que HBO, par exemple, d'être à perte pendant un certain temps et d'augmenter les prix au fur et à mesure. À voir qu'est-ce que ça sera leur stratégie dans les années à venir, ça sera très intéressant à suivre. Il y aura très certainement une consolidation, c'est-à-dire peut-être des services qui vont disparaître, d'autres qui vont se merger ou fusionner potentiellement. À voir, en tout cas, on en est encore au début hein, du paysage de ces services de streaming. Voilà. Et du côté d'Apple, ce qui est intéressant, d'Apple TV+, ils ont décidé d'arrêter justement cette année gratuite d'abonnement à Apple TV+, dans le cas où vous avez acheté un appareil Apple. Ça y est, c'est terminé. Ils annoncent que maintenant, ça sera limité à un mois seulement. Voilà. Payer un abonnement et avoir de la pub perso, je trouve ça vraiment relou. Oui, mais Nirda 52, après, tu avais le choix de payer plus hein, pour HBO Max. Donc, en gros, c'est juste une question de prix que tu es prêt à payer, tout simplement, pour être accessible à n'importe quel type de foyer. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Chaque année, avec les prix qui montent, a fait un empire. Quoi ? Chaque année, avec les prix qui montent, a fait un empire. Je comprends pas ta phrase. Mais oui, chaque année, il y a les prix qui montent souvent. Ouais. Mais c'est normal. C'est la maturation du marché. Tout à fait. Voilà, en tout cas, pour Disney+, Apple TV+, et HBO Max, dont on a parlé ce matin. C'est la fin des news ce matin, on est tranquille, 8h44, on est large, on va pouvoir parler de Loki comme on veut, mais avant de parler de Loki, on va quand même remercier nos sponsors, et même avant nos sponsors, on va remercier quand même vous qui nous soutenez, hein, quand même. Je sais pas si j'ai remercié Hippomony d'ailleurs pour ton abonnement, mais un grand merci à toi. Et également un grand merci à Pierre Riche. Je crois que j'ai raté également ton abonnement. Un grand merci à toi. 8 mois d'abonnement. Un grand merci à vous tous hein, qui nous soutenez. Ça fait chaud au cœur. Et du coup, on continue pour remercier nos sponsors. Alors évidemment, vous les connaissez bien maintenant, c'est ExpressVPN. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent tester un VPN, vous avez l'opportunité de vous abonner, et d'avoir 3 mois gratuits grâce à notre lien d'affiliation que Samuel vous partage dans la chatroom et qui est dans la description de l'émission. Et également, vous avez satisfait ou remboursé sur 30 jours. Donc vous pouvez vous abonner. Tester pendant 30 jours, et puis si finalement vous n'êtes pas convaincu par le service, eh ben vous pouvez vous faire rembourser. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, en tout cas moi, ce qu'on m'a mentionné, c'est la qualité de rapidité du VPN, d'ExpressVPN, c'est-à-dire que vous ne voyez pas vraiment de différence entre votre connexion, votre rapidité de connexion lorsque vous n'avez pas le VPN et lorsque vous l'avez enclenché. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est généralement un des grands points noirs des VPN. Là, a priori, ça se passe plutôt très bien. Donc en tout cas, ceux qui se posaient des questions ou cherchaient un VPN à tester, vous avez un choix possible avec ExpressVPN. Et puis également, on remercie notre autre sponsor qui est Pritel. Et on a une autre initiative qu'on soutient ces jours-ci qui est très importante à nos yeux, c'est le soutien de Reporters sans frontières. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, c'est une espèce de tombola qui prend place à Carmadon Org. Donc vous pouvez vous rendre sur l'URL. Voilà, Samuel vous a partagé l'URL de la tombola. Comment ça fonctionne? Et bah, tout simplement, un ticket égale 1 euro et 1 euro égale une chance de gagner un des prix de la tombola. Donc en gros, vous pouvez participer à un minimum de 5 euros. Et 5 euros vous donnera 5 chances de remporter un des prix qui est mis en jeu dans cette tombola. Donc qu'est-ce qui est mis en jeu ? Eh ben, vous avez des œuvres très très chouettes proposées par Reporters sans frontières. Donc vous avez des lithographies signées, vous avez pas mal de photos, des portraits photos de Romy Schneider, un très beau d'ailleurs, de Gilles Caron. Vous avez une très chouette photo, moi, qui est, voilà, une place spéciale dans mon cœur, de Marc Ribou, qui est un de mes photographes préférés, un photojournaliste préféré, voilà, français, qui avait notamment fait un cliché d'une manifestante contre la guerre du Vietnam à Washington en 67. C'était une photo que j'avais présentée lors de mes études, lors de mon bac. À l'époque, je vous la montre. Je pense que vous la connaissez, hein, parce que c'est quand même une des photos les plus connues aujourd'hui. Et bon, voilà, elle est assez phare, assez représentante, hein, de cette époque-là. Très, très chouette photo. Enfin, voilà, c'est une photo personnellement très, très importante pour moi. Et donc, voilà, soutenir Reporters sans frontières, pour nous, c'est très important. Et donc là, vous avez l'opportunité de faire une bonne action. C'est important de soutenir la liberté de la presse. C'est un boulot et un travail compliqué qui demande d'être vraiment dédié, que ce soit pour les journalistes, les photojournalistes, toutes les personnes qui travaillent pour nous informer au quotidien. Donc voilà, vous avez cette initiative qui est très très chouette, mise en place. Je veux le NFT de cette photo. Bien vu, G-Lab. En tout cas, voilà pour soutenir Reporters sans frontières. Je vous propose de passer tranquillement à la cerise sur le croissant. Désolée, je me suis trompée de... je me suis trompée de bouton, j'allais vous relancer le générique du mug. Je fais une petite pause avec mon super mug. A-t-on des exemples de NFT achetés et revendus ? Bah, je pense qu'il y en a plein hibou, mais là, tout de suite, je ne suis pas l'expert du sujet. Donc, je ne peux pas t'en citer. Bref, avant de faire un cornfac, je voulais revenir un petit peu sur le premier épisode de Loki, une dernière série Marvel disponible sur Disney+, qui s'est lancée, en tout cas le premier épisode a été mis à disposition sur la plateforme mercredi dernier. Aujourd'hui, on va avoir le second épisode qui va être disponible. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est déjà disponible, mais en tout cas il sera disponible ce soir, c'est sûr. Et donc du coup, Loki, pour rappel, c'est quand même le frère adoptif de Thor. Donc là, on est dans le milieu d'Asgard, l'univers en tout cas, et la planète Asgard. Évidemment, Loki, on le sait, hein, c'est le dieu comment on appelle ça, mischief, des combines, ou en tout cas, voilà, mince, j'ai pas le... Je lis que des articles en anglais, du coup, j'ai vraiment du mal des fois à... Est-ce que j'ai le dieu de la déception. Ah, intéressante comme traduction, ouais. Dieu de la déception, de la malice. Moi, je préfère la malice. Je trouve que ça, voilà, je trouve que c'est mieux. La malice, voilà. Il y a, je trouve que ça encapsule bien, ou de la ruse. Ça marche aussi. Ah, vous êtes bon dans la chatroom. Ou de la supercherie, ouais. Fourberie. Ah, bah, dis donc, vous êtes bon là. Vous êtes un vrai dictionnaire de synonymes là, dans la chatroom. Non, le dieu de la mort quand même. Non. Non, non, on a lié Eric, t'es un peu sévère là. Donc, pourquoi vous me dites qu'il est 9h01 ? Il n'est pas 9h01. Mais non, on a le temps. Il est 8h51. Il y en a qui essayent de me tromper dans la chatroom. Ah, je viens de dire qu'il sera en ligne à 9h01, l'heure de la mise en ligne de l'épisode. Oh là là, non, mais non, 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 non. On travaille quand même aujourd'hui, faut être sérieux. On attendra ce soir. Scapin, oui, pas mal pour la notion de fourberie, ouais. Jolie référence. Donc voilà, donc désolée, je divague un petit peu. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah tout simplement, on revient au moment où Loki essaye de récupérer le Tesseract, et en fait, on crée une alternative de la réalité où finalement Loki se fait pas capturer, mais va s'enfuir avec justement le Tesseract et se fait capturer par la Time Variance Authority. Donc c'est l'autorité des variances temporelles. Voilà. Donc, l'autorité des variances temporelles. Et donc, en gros, c'est quoi l'autorité des variances temporelles? C'est une espèce de police temporelle, tout simplement. Une police qui est en charge de s'assurer que le cours du temps se déroule comme il est supposé se dérouler. Voilà. Donc, en gros, il y a une entité qui s'assure que tout se déroule sur le cours de temps comme il faut, avec des espèces de... Comme Loki les appelle, des espèces de reptiles qui sont en charge du bon déroulé du cours du temps, et ben voilà, il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Comme nous, il est très très douteux de cette autorité au début quand il se fait capturer. Il découvre un petit peu de ce qu'il en est. Et l'absurdité, ou en tout cas l'aspect kafkaïen de cet univers, de cette autorité du temps. Et en tout cas, il est accusé, il est capturé, hein, donc pour une raison, il est accusé d'avoir fait diverger le temps ou d'avoir créé une variance dans le temps. Et donc on appelle les variants, voilà, ces éléments perturbateurs qui pourraient créer un événement nexus qui mettrait en danger le cours du temps normal. Voilà, donc je vous fais un petit résumé, voilà. Et c'est pas vraiment un spoil parce que c'est vraiment le pitch du premier épisode, hein, donc ne vous inquiétez pas, ça va pas vous gâcher la série. Donc voilà ce qu'il en est. Donc il se fait capturer, mais il se fait capturer et juger, et au moment d'être jugé, finalement, il y a un des agents justement de l'autorité des variances temporelles qui va le rattraper au vol en disant « Non, non, mais je vais m'en charger, on va lui donner une seconde chance s'il collabore avec nous justement, avec l'autorité des variances temporelles. » Et pourquoi il serait intéressant de collaborer avec cette autorité des variances temporelles? Tout simplement, son but, ça serait d'aider à capturer un variant particulièrement dangereux dont l'autorité des variances temporelles galère à capturer, hein, et qui est très très dangereux. Donc ça, c'est intéressant. L'agent, du coup, qui le récupère pour le faire collaborer, le convaincre de collaborer avec l'autorité, c'est l'agent Mobius, qui est interprété par Owen Wilson. Voilà, et vous allez avoir, donc en tout cas, un premier épisode assez introspectif, puisqu'en tout cas, on va avoir un agent, Mobius, l'acteur Owen Wilson, qui va être souvent en face-à-face avec Loki, l'acteur Tom Hiddleston, et qui vont discuter ensemble, faire un tête-à-tête, pour essayer de comprendre un peu les motivations de Loki et de le convaincre de coopérer avec, justement, l'autorité des variances temporelles. Donc, autant vous dire que moi, j'ai adoré ce face-à-face entre Owen Wilson et Tom Hiddleston, parce qu'autant je trouve que on est... Enfin, en tout cas, moi, j'étais très, très fan de la performance de Tom Hiddleston dans Loki, et je pense que le succès du personnage tient beaucoup à Loki, et un des... ce qui a rattrapé Thor aussi, c'était notamment, justement, Loki, l'acteur et le personnage de Loki, ce qu'il en a fait. Ce qui est très très intéressant là dans ce premier épisode, c'est qu'ils ont trouvé un très bon pendant à l'acteur Tom Hiddleston et à son personnage emblématique, en le personnage justement de Mobius incarné par Owen Wilson. C'est-à-dire que on retrouve vraiment cet acteur dans un rôle où on ne l'attendait pas, et c'est ce qui fait un peu le succès. Le rôle de Mobius est vraiment un équilibre ou un pendant parfait au personnage machiavélique et malicieux de Loki, puisqu'il est très calme, très posé, il va vraiment ridiculiser un petit peu Loki, mais il va aussi sincèrement s'intéresser à lui, à ce dieu de la malice, il va vraiment s'intéresser à sa personne, ses motivations, et donc du coup ça va nous donner une perspective sur les motivations et la personnalité de Loki, une nouvelle perspective. Et ça va potentiellement rebattre les cartes de c'est quoi un vilain traditionnel, ou est-ce que Loki est un vilain traditionnel ou pas, est-ce que c'est vraiment un vilain, etc. Et donc ça va ouvrir une porte assez intéressante dans ce personnage-là, et je trouve que le duo et le face-à-face entre ces deux acteurs est parfait. Moi, j'avoue que je me suis délectée vraiment des scènes où ils étaient là tous les deux. J'ai jamais été une grande fan, en tout cas, de l'acteur Owen Wilson, mais là, autant vous dire que je suis une grande fan de sa performance. En plus, il a été grimé et je trouve que ça fonctionne très très bien. Il a pas son look habituel et donc du coup, on ne voit plus le Owen Wilson qu'on a eu l'habitude de voir dans sa carrière, mais il incarne parfaitement vraiment son personnage. Arrêtez de me dire nouvel épisode de Dispo de Loki dès maintenant là sur Disney Plus. Arrêtez, vous interruptez, vous bousculez ma concentration ce matin. Les films Marvel m'ont tellement paru creux, à 2-3 exceptions près, que du coup je passe totalement à côté de tout ça. Hibou, c'est très inégal les films Marvel, après c'est des films popcorn, hein. Faut pas non plus prendre les films Marvel pour plus qu'ils ne sont, hein. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont particulièrement réussis, voilà. Et moi par exemple, en termes de film popcorn ultime, Thor Ragnarok, pour moi c'est un modèle du genre, quoi. C'est d'un point de vue visuel, sonore, en termes de rythme, de découpage et même en traitement visuel, c'est ultra efficace. C'est comme si on retranscrivait vraiment le comics en termes de film, quoi. On a du punchy, on a des raccourcis faciles des fois, mais ça fonctionne. C'est voilà, bref. J'ai déjà dit combien j'adorais Ragnarok, mais voilà, je suis un petit peu fan aussi du réalisateur. Donc voilà, donc là, en tout cas, je suis une grande fan du premier épisode, j'ai hâte de voir le second épisode. Qu'est-ce qui fait aussi le succès de ce premier épisode? C'est le traitement visuel et l'environnement de ce TVA, de cette Time Variance Authority, de cette autorité de variance temporelle. On rentre dans cet univers qui est un univers un petit peu alternatif, on ne sait pas où ça se situe, c'est pas une planète, on voit pas de soleil, on voit pas d'autres planètes dans l'atmosphère, on est sur une infinité de bureaux d'administration, un peu old school, un peu dans les années 60s d'ailleurs, ça fait une petite... un rappel aux années 60s, au monde de Mad Men. Cette bureaucratie un peu old school, on le voit dans la technologie qui est employée, on a une espèce de Minitel qu'on voit à un moment donné qu'il sert pour rembobiner le déroulé de la vie de Loki, pour revoir des moments phares et essayer de les interpréter. Donc c'est assez rétro, assez délicieux, hein, comment c'est traité. On va avoir un environnement kafkaïen où même référence à l'univers de Brazil, de Terry Gilliam, où on a l'absurdité un petit peu de cet univers bureaucratique. Enfin, très très intéressant, très très chouette. Et même en termes de couleur de l'image, on va avoir un petit peu cet aspect un peu rétro, on va avoir un traitement de l'image un peu vaporeux dans des marrons et dans des verts un petit peu. Le vert, la couleur de Loki aussi, mais qui aussi traite du rétro et qui obscure et qui rend un petit peu cet univers un peu intangible, un peu confus. Et on est un peu, voilà, on est un peu perdu finalement comme Loki. C'est-à-dire on suit Loki dans cette découverte de cette absurdité bureaucratique. Avec tout ce qu'il fait, voilà, de se prendre la tête, etc. Et à côté de ça, on a Owen Wilson avec son calme, son flegme, qui va contrebalancer avec cette absurdité. Donc c'est ça, moi, que j'aime beaucoup, en tout cas. Alors, je lis un petit peu vos... Rétro-futuriste, ouais, tout à fait, Super Dupont. Je trouve que ça décrit très très bien. C'est exactement ça, c'est du rétro-futuriste. Et moi, j'adore vraiment ce parti pris artistique. Avec les Marvel, j'ai eu l'impression qu'on insultait mon intelligence de spectateur des explosions, mais pas de scénario. Ça dépend, ça dépend. Mais après, enfin, il faut pas oublier, c'est quoi le but ultime de ces films? C'est du divertissement. Hein. On n'est pas sur. Et à côté de ça, tu vois, tu vas avoir des films comme, je sais pas, le dernier là. C'est quoi là, les balles qui se rembobinent là? C'est franchement là. Je crois que c'est Nolan là. Oh, mais franchement, il faut qu'il arrête là, ces films pseudo-intellectuels. Tu vois, là aussi. Là, pour moi, à la rigueur, c'est pire. Un film qui se veut intellectuel, mais qui nous sert de la soupe pseudo-intellectuelle qui ne sert à rien. Pour moi, c'est honnête, voilà. Alors là, franchement, c'est prétentieux, c'est américain dans tout ce qu'il y a de négatif dans l'américain, c'est superficiel. Bref. Après, c'est mon avis personnel. Donc, je m'excuse à ceux qui ont aimé le film. Vous avez tout à fait le droit d'aimer le film. Mais moi, c'est vraiment typiquement le genre de film que je déteste. Vraiment, mais à un moment donné, faut être un petit peu plus humble et faire des films un peu plus intéressants. Et qui ont un vrai propos. Ce que je ne trouve pas que Tenet a. Mais voilà. Alors que tu vois, certains Marvel, je dis pas tous, certains ne se prennent pas la tête et sont même ironiques. Notamment Ragnarok, tu vois, il est vraiment en mode, il va jouer avec les codes du genre, il va les détourner et il va s'en moquer. Voilà, et c'est ça que moi j'aime. Babar Vanier nous dit, Tenet n'est pas intellectuel, mais méta sur le fait de faire un film. Mais je suis d'accord, c'est pompeux de fou. Ouais, enfin, méta pour faire méta, enfin, ouais, c'est... Bref. Je ne vois pas l'intérêt du film. Mais je suis peut-être passée à côté d'un truc, hein. Franchement, c'est tout à fait possible. Je ne dis pas que je suis capable de tout comprendre ou quoi que ce soit. C'est tout à fait possible que je sois ratée à côté d'un propos, que je sois passée à côté d'un propos intéressant. Voilà. Mais... Ça veut pas dire qu'il n'est pas capable de faire de bons films. Hein. Voilà. Mais... J'ai pas encore vu Tenet perso. J'espère que je te l'ai pas gâché, belle courue. Des autres exemples de films pompeux à la dernière de Zack Snyder, là. Justice League. Le dernier Justice League et le dernier Wonder Woman. Mais non, mais c'est... Là, pour le coup, en termes de films de super-héros qui n'ont strictement aucun intérêt, mais... Et c'est même insultant. Genre, Wonder Woman, c'est, mais... C'est insultant. La manière dont ils ont traité Wonder Woman, bref. Mais pas que, hein. Mais là aussi, Justice League, on est dans la... Ça se prend trop au sérieux. Après, Batman, en général, il se prend trop au sérieux aussi. Donc, moi, je déteste Batman comme héros. Il m'énerve, là, ce Batman richousse, mais dépressif, ça m'agace. On va pas pleurer pour lui, alors qu'il a plein de choses qu'il pourrait faire, quoi. Mais non, il est tout le temps dépressif, déprimé, ça m'agace. Bref. Voilà, vous vouliez du coup de gueule, vous en avez. Oui, là, le Wonder Woman 1984. Alors qu'en plus, 1984, ils auraient pu s'amuser encore une fois avec l'époque qui est un peu ringarde, avec la musique, etc. Mais ça tient pas, il n'y a rien qui tient. C'est nul. Bref, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas vu Cruella, ouais. On nous dit que vous avez beaucoup aimé Cruella. Ouais, Wonder Woman 84, c'est une purge, mais c'est exactement ça, c'est une purge, ce film. C'est un des pires films que j'ai vus de tous les temps. Et pourtant, ça, je veux dire, c'est même pas divertissant, c'est franchement même pas divertissant. J'arrive en retard, je tombe sur Marion en mode ralouse, je kiffe. Vous l'avez demandé, vous l'avez, voilà. Il faudrait que je vous fasse un top des pires séries ou des pires films que j'ai vus. Je suis sûre que ça vous plairait dans la chatroom. Ça parle mal de Batman, va falloir assumer ses paroles. Non mais oui, franchement j'assume. Ça veut pas dire que j'ai détesté tous les Batman, hein. Mais je pars avec un a priori négatif. Parce qu'en fait, j'ai pas d'empathie pour un espèce de milliardaire qui certes a eu un traumatisme familial, mais bon, je veux dire, c'est pas le seul, quoi. Il y a plein de personnes qui ont été traumatisées dans leur enfance et qui ont fait des choses dans leur vie pour travailler, pour être heureux à un moment donné. Mais là, on a un espèce de gosse milliardaire qui est jamais content de sa vie, qui en fait rien, ou voilà, qui va combattre les méchants et qui est tout le temps déprimé. Et ça, ça m'agace, en fait. Et t'es là, mais à un moment donné, le bonheur, il tombe pas comme ça sur toi. Hein. Voilà, bref, ça m'agace. Je ne comprends pas le principe de Batman, mais bon. J'aime Batman, il n'est pas parfait. Après, il y a des choses intéressantes. Genre, le Joker, il y a des traitements très intéressants. Voilà. Il y a des choses dans l'univers que j'aime bien. Mais ça m'arrive souvent aussi qu'il y ait des héros qui ne soient pas forcément le plus intéressant dans l'histoire. Voilà. Notamment dans les séries, ça arrive souvent. Marion, Disney+, c'est fini pour moi. J'avais pris un an d'abonnement, mais finalement, les enfants regardent Netflix car ils ont vite fait le tour. Augmentation de 20€ pour l'abonnement d'un an. Je suis bien content d'avoir arrêté. Du coup, j'ai pris Celto pour prendre du français. Bah, c'est pas mal aussi de soutenir du français. C'est pas mal, c'est pas mal. De toute façon, le meilleur film sur cet univers, c'est le Joker. Bah voilà. Batman, c'est une métaphore sur la dualité. Oui, non, mais il y a toujours un message derrière chaque super-héros et c'est ce qui les rend intéressants. Hein. Mais on peut ne pas accrocher. Ouais, avec Tim Burton, évidemment, il y a des traitements particuliers. Puis c'est vrai que moi, j'ai grandi avec les versions de Tim Burton, ouais. Il a pris cher ce matin, Batman. À l'origine, je parlais Loki, hein. J'ai fait ma fangirl avec Loki, hein. Ça partait d'un sentiment positif, mais tout de suite, je sais pas comment j'ai atterri sur Batman. Comment j'ai réussi à passer de Loki à Batman, je me souviens plus. Il y a un effet de groupe sur les critiques, ça c'est clair, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Le meilleur moment de Batman, c'est quand Marion Cotillard joue son personnage qui meurt à la fin. Oh, les trolls! Vous êtes pire que moi dans la chatroom. J'attends avec impatience la sortie du dernier James Bond. Ouais, j'aime bien James Bond aussi. Hein. C'est... Bref, il est 9h09, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, je vous donne rendez-vous du coup pour regarder Loki ce soir. On pourra continuer à en parler la semaine prochaine si ça vous intéresse. Nolan est clairement misogyne, il a jamais su filmer une femme. Je peux vous dire en tout cas quand clairement, soit il n'y a pas de femmes dans ces films, soit elles ont strictement aucun intérêt, ou pire, de ne pas avoir d'intérêt, elles desserrent le propos. Bref, je suis remontée. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, aujourd'hui, vous avez le Twitch Achat qui est disponible à 12h30. Et en plus, chose exceptionnelle aujourd'hui, vous aurez des petites choses à gagner pour le Twitch Achat. Donc, autant en profiter, rigoler et gagner des choses, pourquoi pas. Donc, rendez-vous à 12h30 et également... Retrouvez Guillaume demain matin à 8h pour le prochain mug. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Bye bye!